on va déguster. On va déguster. Avec François-Régis Gaudry.
Vous goûterez bien à mon porc aigre-doux, c'est une de mes nombreuses spécialités.
C'est difficile ?
La difficulté de ce plat est dans la sauce. Elle ne doit pas gâter le goût de la viande qui doit être tendre mais croustillante à l'extérieur.
Travers le porc. Farine.
Chef, normalement, il aurait dû rouler la viande dans la farine.
C'est justement l'erreur à ne pas faire, ça altérerait le goût du porc.
Sirop de canne. Glace.
Bel équilibre de saveurs. Grandiose.
On ne plaisante pas avec le porc aigre-doux, comme le montre cette scène enflammée du festin chinois, le joli film du réalisateur hongkongais Tsui Hark. Le festin chinois, c'est un titre qui collerait bien à ce nouveau numéro dont on va déguster. Et oui, la gastronomie de l'Empire du Milieu vaut beaucoup mieux que le riz cantonais et les raviolis vapeur de la cantine asiatique du coin de la rue. C'est ce que l'on va voir avec nos deux invités. William Shan Tachuan, bonjour.
Bonjour, ni hao.
Bonjour. Ah oui, vous allez nous apprendre à dire bonjour en chinois. Vous êtes français d'origine chinoise, sinologue, blogueur, fin gourmet, créateur culinaire et naturellement incollable sur la cuisine de votre pays d'origine. Et puis Ken Home, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
ni hao.
Vous êtes américain d'origine chinoise, vous vivez en France. Notamment, hein, vous passez aussi beaucoup de temps en Thaïlande et vous êtes, disons-le tout net, le Jackie Chang des baguettes, la star internationale de la cuisine chinoise. Quelques 33 livres de recettes, si j'ai bien compté, traduits en 16 langues et vous venez de publier en France Cuisine chinoise, mes grands classiques chez Hachette Pratique. Vous allez bien sûr nous faire partager quelques secrets de cuisine. À mes côtés également, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour tout court.
Ah oui, pas de bonjour en chinois.
Ni hao.
Eh ben bravo. C'est bien, vous progressez Elvira. Et aujourd'hui, vous nous apprenez même à reconnaître un bon restaurant chinois.
Je vais tâcher de vous aider à y voir plus clair.
Avec quelques petites adresses, j'espère.
Oui.
Très bien.
Confirme.
Et puis Dominique Hutin, aujourd'hui, vous nous parlez alcool de riz, c'est ça?
Non, pas tout à fait. Je n'en dirai pas plus. L'Empire du Milieu me contraint au silence.
On va déguster l'émission gastronomique de France Inter. On est ensemble, en direct, jusqu'à midi. Et puis, on commence avec notre tournée des popotes.
On va déguster François-Régis Gaudry.
Ah, on est carrément dépaysé là. La tournée des popotes, ce sont, comme chaque semaine, nos coups de cœur. Et chère Elvira, quoi de neuf cette semaine?
Quoi de neuf? Vous allez me sentir ça pour commencer.
Une petite fiole avec ce qui ressemble à une épice.
Des noix.
Ouh, c'est carrément.
C'est fort,
alors là,
hein,
on est sur le citrus, sur les agrumes. Hein.
Quasi pamplemousse. Hein.
Ouais.
C'est du poivre noir Timut qui vient du Népal et c'est la dernière trouvaille de la maison Tiercelin. Tenez,
la maison Tiercelin.
La maison Tiercelin, fameuse maison d'épices familiale fondée en 1809, qui fournit les chefs, mais nous aussi, heureusement, en vanille, en riz d'hiver, en vinaigre, en mélange d'épices. Je crois que vous aimez particulièrement, François-Régis, un certain mélange Cléopatra, d'ailleurs.
Qui est exceptionnel, avec du cumin, effectivement, du sésame.
Ils ont même un mélange spécial Grande Muraille, qui est un 5 épices revisité. Bah, la bonne nouvelle, c'est que cette formidable boutique est désormais accessible à tous, et plus seulement aux quelques Parisiens qui avaient la chance de pouvoir se rendre aux 3 rue du Puy, dans le 3e, dans le Haut-Marais.
Près de République.
Grâce désormais à leur boutique en ligne, www.tiercelin.com.
Bonne nouvelle, et on y trouve notamment donc
ce poivre que je vous offre, Canom.
Aux accents de, rappelez-nous juste la référence.
Aux accents de pamplemousse, c'est un poivre noir Timut du Népal.
Très bien, merci. Ken Home, alors vous avez un faible pour un restaurant
parisien.
Oui,
restaurant Petrel, et c'est dans le 9e. J'aime beaucoup parce que le chef Jean-Luc André,
il est
cuisinier vraiment de cœur.
Bien sûr.
C'est vraiment sympa, c'est bon, c'est simple.
C'est une cuisine, c'est un restaurant que je connais aussi. C'est vraiment une cuisine pour le coup de saison, dans un cadre en plus assez intimiste, un cadre de brocante.
C'est une vraie cuisine française,
un peu de maison. Surtout.
Oui, tout à fait.
Le restaurant Petrel, qui est 39 rue Petrel. Merci Ken Home. Dominique, un coup de cœur pour un grand muscadet, c'est ça?
Oui, attention, la semaine prochaine, c'est la fête des pères. Alors cette année, François-Régis, vous allez me promettre de ne pas offrir de cravate. Alors cette année, vous allez acheter une chaussettes. Alors, une chaussette comme celle que j'utilise tous les dimanches.
Pour cacher vos bouteilles.
Voilà, je la tiens dans la main pour cacher les bouteilles et déguster à l'aveugle. Et dans cette chaussette, vous allez cacher, donc vous l'avez dit, un très grand muscadet, celui de Michel Bréjon, qui soigne ses vins comme personne à Gorges, Loire-Atlantique, département 44. Il y a encore du travail.
On ne connaît pas encore notre département.
Voilà. Et le prénom de la sous-préfète? Non, pas encore.
Non, ça, je n'ai pas.
Marie-Vonne.
Marie-Vonne, voilà. Alors, il vient simplement de mettre ses 2005 en bouteille. Et dès que papa, puisque c'est la fête des pères, dès que papa va déguster donc à l'aveugle ce grand muscadet, vous allez l'entendre louer la minéralité du vin, son ampleur, et le comparer, comme beaucoup d'amateurs, à un grand vin de Bourgogne blanc.
Ah.
Et voilà. Et à ce moment-là, vous pourrez savourer secrètement le fait qu'il y ait toujours des grands artisans pour faire des grands muscadets, le fait que ça ne coûte que 9 euros, et du coup, vous pouvez en acheter deux, puisque les chaussettes sont vendues par paire.
Eh ben, bonne nouvelle et bonne fête des pères à ceux qui penseront à offrir à leur papa cette jolie bouteille de muscadet. William Chantachouen, un restaurant du
Tout
côté du Jura.
Mon grand coup de cœur se trouve à Arbois, capitale du vin jaune.
Et oui.
Je signale qu'en Chine, on a aussi un vin jaune. Donc, ça se trouve place de Pharamond, ça s'appelle les Claquets. J'ai adoré vraiment la cuisine de marché, de saison, de Claudie qui est la propriétaire. C'est aussi une vraie chef. Et surtout, elle sert des vins naturels, mais vraiment extraordinaires. Elle ne sert qu'à déjeuner, mais c'est ouvert toute la journée. Vous pouvez déguster tous ces vins naturels tout au long de la journée. C'est très chaleureux, convivial.
Les prix, à peu près?
Les prix, 13 euros, donc à l'heure du déjeuner. Et les vins se vendent au verre ou à la bouteille.
Très bien, on ira sur votre conseil au restaurant Les Claquets, place de Pharamond à Arbois, dans le Jura. Et puis moi, si je vous dis Cyril Lignac, vous me répondez forcément Cuisine Réalité, M6, un dîner presque parfait, j'en passe. Et pourtant, Cyril Lignac n'est pas seulement une mascotte cathodique, c'est aussi un restaurateur, un vrai, qui a même le bon goût ces temps-ci de sauver de vieux bistrots parisiens à l'agonie. Alors, il y a d'abord eu, il y a quelques années, le Char de Noue dans le 11e arrondissement. Et puis, Cyril Lignac vient d'accrocher à son tableau de chasse une autre institution parigote. Ça s'appelle le Clos de Saint-Louis, un bistrot de Saint-Germain qui a reçu pendant son âge d'or tout le beau monde de la rive gauche, Belmondo, Gainsbourg, François Mitterrand, etc. Et Lignac a eu vraiment l'intelligence de reprendre ce bistrot de Saint-Germain avec humilité, c'est-à-dire pas du tout avec des grands sabots, mais au contraire en se fondant dans le décor, en conservant le vieux papier peint fleuri des années 60, il y a des photos de présidents de la République, là aussi il a su préserver cette atmosphère. Il a insufflé en même temps à cette adresse une touche de modernité avec un immense comptoir en marbre où on peut s'asseoir pour le déjeuner, et puis dans l'assiette, c'est ça le plus important, des plats de bistrot vraiment impeccables, tirés à quatre épingles. Moi j'ai eu un coup de cœur, notamment pour les ravioles de langoustine arrosées d'une petite bisque mousseuse, et je crois savoir qu'un autre jour vous y êtes allé aussi.
Oui, je me suis régalée. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je donne une petite mention spéciale, si je peux me permettre, au service, qui est vraiment le service le plus adorable que j'ai vu depuis des mois.
C'est vrai. Et une formule déjeuner, entrée, plat, dessert, 25 euros. Ça ne s'appelle plus le Clos de Saint-Louis, mais le Char de Noue des Prés, 27 rue du Dragon, Paris 6e.
Devenus. Et si mon image dit tu ne peux y refléter la tienne, c'est que l'obscur de ton regard noircit notre lumière. Alors tous les soirs lorsque je chante, c'est pas moi, c'est les autres, je me dis que c'est pas si simple que ça de reconnaître ses fautes. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi?
Mon amour du duo Abdelmalik et Wallen.
On va déguster sur France Inter.
Si je vous dis cuisine chinoise, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Nouilles, curry, la sauce Nguyen Mam, nem, voilà, toutes ces saveurs-là.
Bah, sushi. Hein.
Moi, ça m'évoque les wok, les nem, l'amande fraîche et un décor un peu dépassé.
Des nem et des nouilles chinoises et du bœuf aux oignons et voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Canard laqué ?
Boboun.
Le porc laqué au caramel.
Bœuf loc-lac. De Ben Cohen.
Cuisine chinoise, c'est plutôt les nems, les petits pâtés.
Ça m'évoque les vapeurs, le gingembre, les épices aussi.
Riz cantonais, je crois que je me gourre, les nems, les pâtés impériaux, tous ces trucs-là.
Moi, je pense surtout au nid d'hirondelle. Ouais, c'est ce qui me revient le plus facilement à l'esprit.
Je voyais nos deux invités soit rire, soit lever les yeux au ciel en écoutant le micro-trottoir que nous a réalisé Lenora Krief, au hasard, comme ça, auprès de passants parisiens. Qu'est-ce que vous inspire les réponses de ce micro-trottoir, William Chan-Tachuen ?
Je pense qu'effectivement, les Français ont l'habitude de consommer tout le temps le même plat au restaurant. Parce qu'effectivement, dans le restaurant, les plats qui se vendent le mieux, c'est le canard laqué, les crevettes aigres douces, le riz cantonais sauté, les nouilles sautées. Et globalement, ça reste là.
Et les nems.
Alors justement,
et les nems, je ne l'ai pas cité parce que le nem en lui-même n'est pas tout à fait chinois. Mais par contre, on a en Chine ce qu'on appelle le chunjuan, qui est un rouleau de printemps, mais qui se présente sous une autre forme différente.
Et qui est également avec une feuille de riz.
Qui est également avec une feuille de riz. Pas nécessairement, ça peut être aussi de la crépine de porc, mais qu'on ne déguste pas nécessairement avec de la salade, ni trempé dans une sauce de Nguyen Mam.
Le nem à l'origine est vietnamien.
Et vietnamien.
On a entendu aussi boboun dans le genre...
Ça, c'est vietnamien.
C'est vietnamien, bien entendu. On a entendu curry.
Oh, ça, c'est... Il y a une forme de curry en chinois dans le sud, mais c'est rien à voir avec le curry de Inde.
Rien à voir.
Oui.
On a entendu sushi. Bon, là,
c'est évident pour tout le monde.
On peut raisonnablement dire que c'est une invention japonaise. Quoique, ça peut être une invention...
Les Chinois aiment des choses cuites.
Ça peut être une invention même presque américaine, enfin américano-japonaise en tout cas. Le riz cantonais, alors pour le coup, qui est un peu l'accompagnement officiel du repas chinois dans les cantines.
Mais toujours avec le riz blanc, pas cantonais comme ça. Ça, c'est pour les banquets. Après le banquet... vous mangez des riz frites si vous encore faim.
D'accord, mais le riz cantonais en tant que tel, avec ses petits pois, avec ses petits...
Le riz cantonais, comme c'est servi à Paris ou dans le monde entier, c'est une création aux États-Unis.
D'accord.
Le vrai riz cantonais, en chinois, on appelle chao fan, hein, c'est le riz sauté. Et là, on a quand même des ingrédients plus nobles, avec des crevettes, avec des champignons, avec des pousses de bambou. Et ce n'est pas tout à fait la même version consommée en France.
D'accord, donc le message, si j'ai bien compris, c'est qu'en France, on a une vision assez réductrice de la cuisine chinoise.
Disons qu'il y a une adaptation locale, hein, il y a aussi des raisons économique, commercial, qui fait que on va au plus vite.
En plus du fait que la cuisine chinoise n'a pas toujours eu une très bonne image. Hein. D'abord, on a eu ce qu'on a appelé le syndrome du restaurant chinois, le glutamate, qui est un exhausteur de goût utilisé dans les restaurants chinois.
C'est des mauvais chefs.
D'accord.
Si vous voulez ça. Le problème avec la cuisine chinoise en France, c'est comme partout, c'est des gens qui n'est pas des chefs. Vraiment des chefs, c'est des gens qui viennent en France, ils trouvent pas le travail.
Ils s'improvisent chefs.
Tout à fait.
Et puis il y a eu également aussi en 2004, faut-il le rappeler, c'est vrai que l'image de la cuisine chinoise a été assez écornée par ce qu'on a appelé le scandale des appartements raviolis. C'était un reportage de France 2, envoyé spécial, qui avait mis le doigt sur des clandestins qui faisaient dans des appartements insalubres. À la chaîne, des raviolis, bon, dans des conditions d'hygiène assez déplorables. Alors ça, ça n'a pas facilité la compréhension de la cuisine chinoise pour les Français aussi.
Mais je pense non plus qu'il ne faut pas généraliser, hein, parce que ce sont des faits isolés. Sur Paris, par exemple, il y a des restaurants qui confectionnent tous les jours leurs raviolis, hein, donc dans les règles de l'art.
Et on verra d'ailleurs avec Elvira dans la deuxième partie de cette émission les quelques indices pour reconnaître un bon restaurant chinois. Tentons d'explorer la vraie cuisine chinoise parce qu'elle existe. Alors je me tourne vers vous, William Chan-Tachuen. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas une cuisine chinoise, mais...
Il y a plusieurs cuisines chinoises. Hein. C'est comme lorsqu'on vous demande, définissez la cuisine française. Comment vous allez la définir ? En France, je dirais qu'il y a une région, hein, donc qui est plutôt le beurre au nord et l'huile d'olive au sud. Pour présenter la cuisine chinoise, je vais déjà commencer par dire que tous les Chinois ne mangent pas du riz. on a deux zones. Le nord, on
quelle
est
révélation.
Plutôt voilà, tous bon. Les champs ne mangent
pas
du blé.
Le
nord, on est plutôt dans le blé, le céréale, alors que dans le sud, effectivement, on est dans le riz.
Et vous m'avez même dit qu'entre les deux, il y avait une frontière un peu floue. On pouvait même manger
deux,
du maïs.
Effectivement, quand on dit les céréales, il y a le riz et le blé, qui sont vraiment les deux céréales, je dirais, les plus prisées. Après, on a effectivement le millet, le maïs, le sorgho. Hein, donc, on mange aussi des racines.
Absolument.
Comme le sorgho, le taro, la patate, l'igname, etc.
Donc, ça, c'est un premier découpage.
Ça, c'est un premier découpage.
En fonction des céréales consommées, qui est quand même la base de l'alimentation. Et ensuite,
l'autre découpage, c'est par rapport au
goût. Moi, j'ai une toute petite interrogation. Oui. C'est peut-être mon incompétence, mais quelle est la limite entre nord et sud? À partir de quelle ville?
C'est le fleuve jaune.
D'accord.
Voilà. Hein, donc, c'est le fleuve qu'il y a au milieu.
D'accord.
Après, effectivement, comment définir cette variété culinaire? Il y a un proverbe chinois qui dit « Nan tian bei xian tong la xi suan ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire salé au nord, sucré au sud, vinaigré à l'est et pimenté à l'ouest.
Toute cette traduction, ça tenait en la petite phrase que vous avez donnée.
Vous voyez, l'avantage aussi de la culture chinoise, c'est qu'en 8 caractères, on a défini, bien sûr dans les grandes lignes, donc ce qui caractérise cette cuisine chinoise, tout en sachant que lorsqu'on parle de cuisine chinoise, on parle de la cuisine des Han, c'est-à-dire de l'ethnie Han d'origine, parce qu'en Chine, il y a aussi des minorités nationales qui ont aussi leur propre cuisine.
Alors essayons de comprendre ces quatre, ce découpage en quatre parties. Vous avez commencé par le nord,
c'est ça ? Le nord, donc, qui est le goût salé. Donc, qu'est-ce qui caractérise la saveur du nord ? Effectivement, c'est le sel. C'est des goûts très forts. Donc, ils aiment l'ail, la ciboule. Parce qu'on connaît la cuisine du nord, donc représentée par Pékin. Le canard laqué qu'on vient de citer, tout le monde connaît le canard laqué.
Bien sûr, la spécialité pékinoise.
Qui est effectivement consommé, enroulé dans une crêpe, avec de la ciboule, une sauce sucrée. Et il y a des plats plus typiques. Par exemple, à Pékin, donc région des céréales, on mange des nouilles, donc des nouilles tirées à la main. On appelle ça ta jiang mian.
C'est ce qu'on appelle les pâtes vivantes aussi.
Ce sont les pâtes vivantes. C'est effectivement, ça. Le concept vient d'arriver à Paris. Sont des nouilles tirées à la main.
On voit comme ça fleurir quelques cantines.
Voilà, et sont des nouilles tirées à la main qui sont servies avec une sauce sucrée. Il y a d'autres plats aussi. Donc il y a la fondue mongole.
Oui.
Pourquoi? Qui est un héritage de l'invasion mongole. Donc ça, ce sont des fines lamelles de viande de mouton qu'on trempe dans un bouillon.
On mange aussi du mouton et de l'agneau en Chine.
On mange aussi du mouton et de l'agneau en Chine, par exemple.
Ken Home.
Parce qu'il y a des musulmans en Chine.
Influence musulmane.
Oui. Mais le sud, nous n'aiment pas les moutons.
Et vous d'ailleurs, vos parents sont d'origine du sud, sont d'origine cantonaise. On va en parler justement après le nord. Donc le nord, on a compris, saveur très forte, salée, très marquée, avec de la sauce soja notamment.
D'ailleurs, au nord, ils aiment tellement le mouton qu'il y a une recette de tête de mouton bouillie qui est servie avec la sauce de soja et de vinaigre.
Oui, et on va voir aussi qu'en Chine, on mange des choses extrêmes. Allez, on se dépêche un peu juste pour comprendre les quatre catégories. Après, la cuisine du nord, cuisine du sud.
Alors, la cuisine du sud, c'est la cuisine cantonaise. C'est celle qui est la plus prisée.
Alors, justement, Ken Home,
cantonaise.
C'est celle que vous connaissez
choses,
bien.
Oui, bien sûr. C'est des légumes frais, des choses à la vapeur, le poisson, beaucoup des fruits de mer. Pour moi, c'est le meilleur.
C'est une cuisine qui insiste, si j'ai bien compris, sur la fraîcheur, sur le produit, d'accord, avec une variété, j'imagine, assez importante d'ingrédients.
Très fraîche.
C'est Canton, c'est Hong Kong, c'est ça, cette cuisine-là au sud.
Oui.
Et il y a des choses aussi un peu exotiques, un peu de lait de coco de temps en temps.
Dans le sud, sud-ouest, par exemple, il y a Yunnan, il y a des choses comme le fromage de chèvre. Ça, il fait frit et aussi il fait cuit à la vapeur avec des jambons. C'est un peu bizarre, mais c'est une délice.
Ça, c'est des choses totalement exotiques qu'on peut manger, j'imagine,
le jambon
sur place.
De Tinhua, tout à fait.
D'accord.
C'est le jambon de Tinhua. Ouais. D'ailleurs, juste par rapport au proverbe, il y a un proverbe chinois qui dit aussi « Il faut naître à Suzhou parce que les plus belles filles de Chine ». Qu'il faut s'habiller à Hangzhou parce qu'il y a vraiment la meilleure soie. Il faut manger à Canton parce qu'effectivement, c'est la meilleure cuisine. Et il faut mourir à Liuzhou pour la simple raison qu'il y a le meilleur bois pour les cercueils.
D'accord, donc on a compris que s'il faut faire un... Chers amis auditeurs, si vous voulez faire un voyage en Chine pour manger, priorité quand même à Canton et Hong Kong, on s'y régale. On n'a pas dit aussi que c'est à Canton que sont nés ce qu'on appelle les dim sum. C'est-à-dire, c'est quoi? Racontez-nous, Ken Home.
Les petites, plus que ravioli, des choses qui fait au four.
Petites bouchées.
Oui. Boucher, mais petit, hein, pas comme ici. Hein. Ici, c'est trop grand.
Et que l'on déguste, en fait, c'est une espèce de brunch matinal, hein,
oui,
c'est ça?
Avec l'été.
Oui.
Commence, par exemple, 11h jusqu'à 15h.
Oui.
Et des gens, ils parlent avec les chariots, tout, les choses fraîches. Ça,
les,
c'est vrai.
Les paniers en bambou à étage, oui, les paniers vapeur qui arrivent sur les tables. Il y a une ambiance dans des restaurants hongkongais autour de ces dim sum. D'ailleurs, l'instant de dégustation avec le thé, on appelle ça yamcha, c'est ça?
Yamcha.
Excusez-moi, j'ai pas encore travaillé mon accent.
Boire du thé.
Ouais, ça veut dire boire du thé.
Voilà,
donc les dim sum. Et là aussi, on a une tendance en France. C'est vrai qu'on va voir qu'on commence à comprendre un peu mieux dans les restaurants français, dans les restaurants chinois en France, la cuisine chinoise, l'authentique. Et les dim sum font partie comme ça de ces plats en vogue. Allez, rapidement, en une minute, les deux autres catégories de cuisine, Est et Ouest.
La cuisine de l'Est, hein, donc plutôt de la région de Shanghai. Il y a deux produits typiques qui est effectivement le vinaigre de Zhejiang, qui est un vinaigre excellent, et après le vin de Shaoxing.
Le vin de Shaoxing, qui est effectivement une base qui rentre dans beaucoup de plats.
Tout à fait, et d'ailleurs, mon
c'est
livre,
un vin donc, de riz, c'est ça?
C'est un vin à base de riz glutineux.
D'accord.
Hein, donc, par rapport aux plats qui sont représentés, hein, donc vous avez par exemple le Tong Po Ro, qui est de la viande de porc, qui est macérée, hein, donc avec effectivement cette sauce de soja fouettée par cet alcool de Shaoxing.
D'accord.
Vous avez par exemple un autre plat qui est très prisé, qui sont les crabes poilus.
Tout à fait. C'est une spécialité de Shanghai.
C'est une spécialité de Shanghai qui se déguste. C'est très rare, hein, donc qui se déguste que du mois d'octobre au mois de décembre.
C'est cher, Ken Home.
Oui, très très cher.
Parce que c'est des crabes rares et ça se mange à une certaine période seulement.
Oui.
Et comment ça se présente en deux mots?
Alors, comment ça se présente? Effectivement, c'est un crabe, hein, comme un autre, hein, mais ce qui est exceptionnel, c'est sa saveur.
D'accord.
C'est pour cette raison, quand on la consomme, hein, donc juste un peu de vinaigre de Shaoxing suffit, avec un hachis de gingembre frais. J'en parle d'ailleurs de ce banquet de crabe dans mon livre « À la table du pavillon rouge ».
À la table du pavillon rouge, dont on va parler bien sûr.
Tout à fait, hein, donc, où effectivement, ça donne lieu aussi à des joutes, à des joutes poétiques.
Et l'Ouest, allez, rapidement.
L'Ouest, là,
donc,
on est vraiment
vinaigré et ouest.
Dans le pimenté. Hein, donc, en chinois, on dit « mala ». Hein, donc, effectivement, c'est le Sichuan Chengdu, c'est la région des pandas. Mala, c'est le plat de Sichuan qui est très connu maintenant en France. Et juste en termes sémantiques, hein, ma, c'est-à-dire anesthésié, là, c'est-à-dire pimenté.
D'accord.
C'est-à-dire que le vrai poivre de Sichuan, hein, donc doit laisser une impression d'électrique.
Qui n'est pas un poivre d'ailleurs.
Qui n'est pas un poivre.
C'est pas un poivre de la famille des pipeurs, négroum, etc.
Et
c'est une baie.
Au Sichuan, un des plats les plus célèbres, c'est le ma pro tofu, qui est le fromage de soja de la dame au visage grelé.
Très bien.
Hein, donc, et d'ailleurs, il y a aussi un autre plat qui est très connu. Hein,
le panda.
Dominique, avec ses gros sabots.
Plutôt les abats, hein, donc ça termine à la même consonance, qui sont des abats qui sont marinés aussi dans ces épices qui sont très fortes.
Des abats et du tofu, on va bien entendu parler bien d'autre chose. Le tofu, vous avez écrit un livre sur le sujet. On se retrouve dans quelques instants, on fait une petite pause musicale avec Isabella de Moriarty.
Oh,
La revue de presse d'Elvira Masson. Chaque semaine, Elvira épluche encore les journaux du monde entier avec deux infos. Et on commence en France avec un point important, un panorama du bio.
Oui, un dossier important qui est consacré à, au bio, le guide du bio, hors série du magazine 60 millions de consommateurs. C'est très mitigé en réalité. Donc à la fin, je vous fais un petit topo rapide. À la fin de l'année 2010, il y avait en France 55% d'exploitation bio de plus qu'en 2008.
D'accord.
Depuis 5 ans, la consommation de bio augmente de 10% par an. Jusque là, c'est plutôt bien. Sauf qu'il y a un domaine où pas grand-chose ne bouge. Il s'agit des cantines scolaires. Pourtant, c'était un des engagements du Grenelle de l'environnement de porter la part du bio à 20% dans les cantines scolaires d'ici à 2012.
D'accord.
Or, selon WWF, nous n'en sommes qu'à 2%. On devait passer à la barre des 20 dans un an. Donc on est loin du compte. Et apparemment, c'est plus une question de volonté que d'argent, parce qu'on pourrait s'imaginer que ça entraîne un énorme surcoût. En réalité, c'est plutôt un problème d'imagination et de bonne volonté. Il faut notamment apprendre à changer les habitudes. Par exemple, réapprendre à cuisiner le blé, les légumes secs, qui sont des produits peu coûteux, mais qui demandent un peu de travail, parce qu'on en a perdu l'habitude. Il faut également que les cantines scolaires s'approvisionnent auprès de producteurs locaux. Et ça également, ça demande un changement d'habitude et de mentalité.
D'accord, donc c'est un dossier effectivement assez complet. 60 millions de consommateurs, je vois là 10 produits passés à la loupe, le lait, les viandes de bœuf et de mouton, la viande de porc et la volaille, ça vient tout juste de sortir en kiosque, hein, c'est ça? On quitte la France et on part en balade en Italie, du côté de chez Rossini,
le compositeur. C'est beaucoup plus léger, je me suis laissée bercer par le quotidien italien La Stampa qui remonte les pas du compositeur Gioachino Rossini, je ne sais pas si je prononce bien. Et qui nous emmène en voyage du côté de Pesaro, sur la côte adriatique, la magnifique ville natale du compositeur. C'est une terre de poissons sauvages, de fruits de mer, de pecorino rosso. Et Dominique, vous le savez peut-être, de vin. Le fils adoptif de Napoléon,
alors Dominique,
Eugène Beauharnais, a planté du pinot noir sur des terres qui avaient à l'époque confisquées à l'église. Et sur ces collines, aujourd'hui, deux frères, les frères Mancini, ont fait un peu le ménage, parce que ce vin était, je crois, pas forcément fantastique. Ils produisent désormais un pinot napoléonien très réussi, nous dit-on. Alors, il faudra peut-être nous faire goûter.
Est-ce que pour la fête des pères, on peut s'en jeter un derrière la cravate?
Je ne connais pas le prix, donc je ne suis pas sûre que ce soit très très raisonnable.
Ou dans une spéciale Italie, on va déguster un de ces quatre.
Peut-être.
Alors l'histoire ne dit pas si Rossini buvait du vin napoléonien, mais en tout cas, il cuisinait et mangeait avec autant d'appétit que d'esprit, si l'on en croit les céramiques qui ornent sa maison, que l'on peut visiter, des céramiques signées du satiriste Franco Bucchi, et qu'il représente presque systématiquement à table ou en cuisine, beaucoup plus qu'en train de travailler à ses compositions. On lui doit notamment le fameux tourne-dos Rossini qu'il a inventé. Alors on dit aussi que c'est son maître d'hôtel qui l'avait inventé, mais j'ai quand même beaucoup lu que c'était vraiment lui qui avait mis la main à la pâte.
D'accord.
Il a créé des spécialités qu'on connaît moins, comme la frittata Rossini, qui était une omelette à la truffe blanche, les filets de sol Rossini, également un risotto Rossini tout simple, à la tomate et au parmesan. Et je me dis qu'à l'heure où on prépare ses vacances, si on ne sait pas où aller, moi je me dis que je ferais bien un petit tour à Pesaro sur les traces de Rossini.
En Italie, et pourquoi pas en Chine.
On va déguster sur France Inter.
Ken Home. Comment devient-on l'ambassadeur international de la cuisine chinoise? Alors, expliquez-nous. Vous avez grandi à Chicago, c'est ça?
Oui, j'ai grandi à Chicago. Je suis né en Arizona, mais j'ai grandi à Chicago. Je commence à parler anglais quand j'avais 6 ans.
D'accord, donc vous étiez vraiment immergé dans la communauté chinoise.
Tout à fait. Et je commence à travailler... mon oncle a 11 ans dans son restaurant et c'est ça je prends pour faire la cuisine.
Parce que votre oncle tenait un restaurant gastronomique à Chicago.
Oui, tout à fait. Parce que mon père est mort quand j'avais 8 mois.
D'accord.
Et après, ma mère est toute seule et elle travaille et on a besoin d'argent.
Et c'est auprès de votre oncle que vous avez appris la cuisine?
Oui, lui, c'est un gourmet. Lui, il est visité en Chine, en Taïwan. Il a pris les meilleurs chefs pour Chicago, le quartier chinois. Et après, je travaille pour lui 6 ans. Mm-hmm. Et après, j'en ai marre. Parce que c'est dur. Hein,
bien sûr.
Quand vous êtes 11 ans à travailler comme ça. Et après, je fais mes études en Californie.
Oui, à Berkeley, c'est ça?
À Berkeley, c'est ça.
Pas que vous étiez une espèce de gauchiste.
Ah oui, un peu maoïste.
Mais maoïste. Contre la guerre du Vietnam, ça va sans dire. Contre la malbouffe. Et je crois que c'est ce qui vous a emmené en France.
Comment ?
Le fait d'être, de vouloir partir à la recherche des saveurs, oui. de la cuisine authentique, oui, etc. Vous avez été attiré par
Mais
la France.
Moi, je trouve qu'il n'y a que des cuisines françaises qui le même rapport avec les cuisines chinoises. La variété, la saveur, la passion pour la cuisine. Et après, le New York Times il fait une grande page, deux grandes pages sur... Je renseignais la cuisine, tout ça.
Sur vous ?
Sur moi. Et ça, c'est... Après, le BBC m'a demandé pour faire une émission qui dans 32 pays après, voilà.
C'est ça. Je crois que c'est en 84 hein, que la chaîne anglaise BBC vous demande de faire un programme sur la cuisine chinoise. Et là, ça a été l'explosion de votre carrière. On vous a demandé des livres, vous avez parcouru le monde entier. J'ai sous les yeux la liste des personnalités pour lesquelles vous avez déjà fait la cuisine. Attention, Jacques Chirac, Helmut Kohl, Tony Blair, Romano Prodi. Vous avez vraiment été demandé dans toutes les occasions.
Oui. Je crois tous ces gens, ils aiment manger bien.
Bien sûr. Et quand on dit Ken Home, il y a un ustensile que vous avez contribué à démocratiser dans le monde entier, c'est le wok. C'est vrai qu'avant les années 90, en France et dans les pays occidentaux, on ne connaissait pas trop cette espèce de... Alors c'est quoi ? C'est une espèce de... C'est un mi-chemin entre la poêle et la casserole, c'est une demi-sphère.
C'est plus qu'un poêle. Hein.
C'est une poêle demi-sphérique en acier. Effectivement, c'est un instrument de cuisine qui remonte à très loin parce qu'il a été créé à 450 après Jésus-Christ durant la dynastie du Nord et du Sud.
Donc, ce n'est pas un gadget, c'est authentiquement chinois.
C'est authentiquement chinois. En chinois, on l'appelle kuo et le wok. Hein, donc, est intimement lié aussi par rapport au concept de cuisine chinoise. Mm-hmm. Parce que dans la Chine antique, on dit que l'homme de bien se démarque des barbares et des sauvages par la consommation de céréales et d'aliments cuisinés par le feu.
D'accord, ce donc d'aliments transformés par la main de l'homme.
Tout à fait. Ce qui veut dire quoi ? La cuisine chinoise, c'est d'abord le passage de la nature à la culture des ingrédients. Il y a une touche de civilisation. Et ce qui explique aussi qu'on découpe les aliments, il y a une mise en forme qui est importante. En Chine, on dit qu'il y a une règle, une théorie de la cuisine qui date aussi de l'Antiquité. Ça commence toujours par le regard, c'est-à-dire la vue, le se. Hein, donc, s'il donne l'appétence. Mmh. Après, le xiang, donc ce sont les fragrances, c'est la maîtrise du feu. Mmh. Hein, la maîtrise du feu parce que c'est la cuisson qui permet de sortir aussi les arômes. Après, il y a le xing qui est la mise en forme, donc qui permet effectivement de faire une cuisson très rapide dans ce wok. Parce que le wok, il est construit à base d'acier, ça permet de chauffer rapidement et de saisir.
C'est ça.
Ce qui permet de garder aussi les vitamines, les arômes, mais sont des choses... Pour nous.
Donc le principe Ken Home, c'est de cuisiner de façon très expéditive, très vive.
Oui, et très chaud. La chaleur, c'est très important parce que c'est ça qui donne le goût de tous les plats chinois.
Comment vous expliquez un tel succès, le succès du wok à partir des années 90 ?
Je crois que c'est parce que c'est une cuisine rapide, c'est très sain. C'est,
il faut mettre beaucoup de matière grasse dans un wok ?
Non. Pas du tout, on n'a pas besoin de beaucoup.
Donc ça correspondait en fait à des critères diététiques, de cuisine saine, et puis d'une cuisson qui respecte aussi les textures, les saveurs des aliments, les vitamines, les qualités nutritives. Allez, une petite recette wok pour se faire plaisir. Racontez-nous comment on peut s'amuser avec un wok, sachant que des woks, on en trouve un peu partout. Vous nous avez parlé d'un poulet au concombre. Ça tombe bien, maintenant, ce légume est totalement disculpé.
Parce que,
on peut se remettre à manger du concombre.
Non, des Chinois, toujours manger des concombres cuites.
C'est ça qui est original.
Oui.
C'est que là, vous nous proposez une recette cuisson par le feu. Donc, comment on s'y prend alors ? Un poulet au concombre, en quelques gestes, quand on a un wok, ou même si on n'a pas un wok, on va dire qu'on peut éventuellement utiliser un fétou un petit peu.
On prend un peu des poulets, des concombres, et vous faites chauffer le poêle ou le wok, et après, on met un peu d'huile d'arachide.
Huile d'arachide ?
Oui, pas beaucoup.
D'accord.
Et vous faites sauter la viande.
Oui. Donc c'est des petits, on prend des filets de poulet tout simplement, des blancs de poulet que l'on coupe en petits émincés.
Une minute. Et après, sortir
la viande,
vous mettez les gingembre ou l'ail, comme vous voulez.
Émincé finement.
Voilà. et après des concombres.
Oui. Mais alors les concombres, comment vous les mettez dans la... Ils sont découpés comment?
Oui, coupés en petits morceaux, comme là.
En cube un peu.
Oui, en cube.
Ah, c'est vrai qu'on a une jolie...
Mais ils sont pelés? Oui.
Oui, bien sûr. Et aussi
vidés.
Oui, vidés. Et après, vous mettez un peu de soja. Et on remet le poulet, c'est fini.
Magnifique. Ah oui, donc ça
10 minutes.
Ça fonctionne 10 très minutes. Bien. Il y a aussi des recettes du côté de notre ami William Shantachwen, puisque vous avez signé, il y a très peu de temps, à la table du rêve dans le pavillon rouge aux éditions Jean-Paul Rocher, le rêve dans le pavillon rouge, c'est un classique de la littérature chinoise.
C'est un roman chinois du 18e siècle qui fait partie des 5 classiques chinois.
D'accord. Alors j'ai feuilleté effectivement un certain nombre de recettes. Palais sensible s'abstenir, fœtus de mouton cuit au lait et à la vapeur. Bon
appétit. Ça c'est pour des raisons de diétothérapie. Et c'est une recette qui est réservée aux personnes âgées.
D'accord.
Ça permet donc d'introduire plus de yang dans le corps.
D'accord, donc il y a effectivement à chaque choix d'aliment, il y a toujours une raison diététique.
Chaque choix d'aliment, il y a toujours une raison diététique. Un Chinois choisira toujours un aliment parce qu'il est bon pour la santé d'abord, avant le goût.
Il paraît qu'on aime beaucoup en Chine aussi les pénis d'animaux.
Oui, tout à fait. Encore une fois, ça fait partie de l'incorporation. Parce que le pénis a une image de puissance, de vigueur. Donc en consommant le même ingrédient, ça permet d'avoir les mêmes effets sur son propre corps.
Et on compte le concombre dans ce registre-là ou pas?
Non.
Il fait fort, Dominique, aujourd'hui. Toujours à la table du rêve, dans le pavillon rouge, bouilli de riz rouge et chat sauvage salé. Bon appétit. Et puis alors par contre, il y a une recette que j'ai beaucoup aimée, toujours dans cette idée de diétothérapie, merci beaucoup William.
C'est du chinois.
Soupe pour soigner la jalousie des femmes.
Effectivement, c'est une merveilleuse soupe qui a été inventée par l'auteur Cao Xueqing parce que c'est un petit joueur aussi. Et c'est une recette qui est à base de poires, ce sont des poires épluchées, qui sont pochées avec des zestes de tangerine et du sucre candi.
La tangerine, c'est une agrume,
tout à fait. Et bien sûr, Cao Xueqing, l'auteur, est un petit joueur parce que il n'y a rien qui puisse apaiser la jalousie des femmes, peut-être un bijou de prix, mais pas...
Voilà, donc si vous avez une femme jalouse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez en cuisine et puis de la pomme, un peu de tangerine, 3 bols d'eau.
De la poire, pardon.
Sinon de la pomme, ça peut donner un autre effet. Et là, ça risque d'arranger la situation. Dominique, on vous retrouve dans quelques instants. Oui. On va tremper les lèvres dans votre vin mystère. Vous voulez toujours pas nous dire d'où ça vient?
Muet, je resterai.
Bon, eh bien on fera avec.
Ceux qui boivent du thé, je leur fais du karaté. Ceux qui boivent de l'eau, je leur fais du judo. Ceux qui boivent du jus, je leur fais du jujitsu. Ceux qui boivent du lait tofu, je leur fais du kung-fu. Moi, pour être le roi du ring, je prends un bain de Riesling.
Ah, on a un indice.
Bravo.
Il faut boire du vin avant.
Ah oui.
If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story, doesn't matter what you do, you are hanging with
Bon, heureusement qu'il y a eu votre petite chansonnette. On a eu un indice, Dominique. Il s'agit donc de Riesling.
Il s'agit de Riesling, oui. Donc les verres sont pleins. La température monte dans le studio. Voilà. Je vous laisse goûter gentiment. Alors pour ma part, évidemment, j'ai commencé un petit peu. On est là directement sur une expression assez aromatique, assez présente de fruits blancs. Je l'ai goûté avec votre poivre magique, Elvira.
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne terriblement bien.
Il y a vraiment le goût d'agrumes.
Voilà, on est vraiment sur ce registre-là. Donc, on a oublié de le dire, c'est un vin blanc.
Oui,
ça part avec
effectivement.
Mais disons-le, c'est plus simple.
Avec une robe d'ailleurs assez pâle.
C'est assez pâle, ouais. Ouais, c'est assez pâle. C'est fleuri, beaucoup d'anis. C'est aromatique, je l'ai dit, et surtout lorsqu'on le prend en bouche, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un caractère assez tendre. On est sur un vin de Riesling, on l'a dit, mais demi-sec. Donc d'où vient-il ? Voilà la question.
Et oui, alors, est-ce que vous avez une idée, Kenoum ?
Oui. De Savin ?
Oui.
J'aime pas trop.
Vous n'aimez pas trop ?
Non.
D'accord.
Mais.
Vous avez une excuse pour ne pas trouver la provenance.
Alors je vais lever le voile.
Attendez, peut-être que William Chantachouen a une idée.
J'ai eu l'étiquette marquée Dynastie.
Ah. Hein,
Dynastie, ouais. C'est aussi un label de vin chinois aussi.
Et ben bravo. Et effectivement, nous partons avec Chine du vin chinois. Mais vous plaisantez, Dominique ?
C'est du vin chinois, voilà. Vous l'avez dit, Dynastie. Alors c'est marqué, hein, medium dry white wine. Donc on est bien sûr un demi sec. La région, je vous laisse le soin, William, peut-être de prononcer.
Ningxia.
Voilà, merci beaucoup.
Ça se trouve où ?
Donc, on est plutôt dans le nord, vers les steppes, cher ami.
Vous pouvez pas être plus précis que ça.
Bah, c'est déjà bien, non ? Il me semble. Donc, on est sur un Riesling 2008. Le domaine, c'est Elan Mountain, premium, collection. Ce vin, quand même, une particularité, c'est qu'il a remporté la médaille d'argent en 2010 dans un concours qui est un peu conséquent, qui est le challenge international du vin, et ça se déroule dans le Bordelais.
Mais sincèrement, ça se laisse boire.
Ça se laisse boire.
C'est bon, quoi votre avis, au fond, Dominique, sur ce vin ?
Très sincèrement, il est 11h49, c'est l'instant apéritif. Je pense qu'on peut très bien se laisser bercer par ce vin-là. Effectivement, je rejoindrai l'avis général, c'est un vin qui connaît ses limites. On n'est pas d'une grande ampleur, d'un grand volume.
Quel euphémisme, ça c'est la façon de dire. C'est une vraie piquette.
Non, du tout. Pas de grimace autour de la table. Sincèrement, c'est la séduction par le fruité, l'arôme, le sucre qui opère. On est sur une facture, somme toute, assez classique. Alors, quand même, on savait que la Chine avait un grand élan, un énorme élan vers le vin. Écoutez bien, hausse des ventes de vin tranquille importé, 428% d'augmentation entre 2005-2009, c'est-à-dire seulement sur 4 ans. Et la Chine va encore connaître une hausse de 54% sur les 5 années qui viennent. Donc on estime même que ce sera le 5e pays consommateur au monde en 2014. 2014, c'est tout bientôt. Alors, ça fait évidemment une grande réserve de gosier qui titille l'attention et les appétits du monde du vin. Et bien évidemment, les Français sont allés se positionner pour prendre des parts de marché. Et très clairement, là-bas, en matière d'importation, c'est Bordeaux qui domine. Alors, cet univers-là, il est en train de se développer. Les Français essaient de pas rater ce train, qui est un train à grande vitesse, on l'a compris, au point que j'ai amené ici la Revue du vin de France.
Oui.
Alors, la Revue du vin de France, c'est un peu la Bible de l'amateur.
De l'amateur.
Donc, ça, c'est le spécial 2010 qui sort tous les ans. Et on nous dit, RVF, c'est Revue du vin de France pour les intimes. En Chine, c'est parti. On nous dit dedans, ça y est, la RVF parle chinois. Pourquoi ? Parce que leur première édition en langue étrangère, ne sera pas en anglais, mais directement en Chine.
D'accord.
En chinois, pardon. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que la Chine est aussi producteur. C'est ce qu'on vient de découvrir à l'instant. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il y a déjà 30 ans, Dynastie, dont j'ai la bouteille entre les mains, a été créée en association avec une grande firme de cognac français. Allez, un petit tunnel de chiffres pour faciliter le transit intestinal.
Oui.
On me grimace, j'accélère donc. La superficie, 485 000 hectares en Chine, pour vous donner un ordre d'idée, 900 000, c'est-à-dire le double en France. Donc on est encore en gestation, tout le monde a saisi que tout ça allait s'accélérer. On compte à peu près 940 domaines viticoles. Pour donner un ordre d'idée, je parlais de Muscadet en début d'émission, le Muscadet c'est 600 producteurs. Vous voyez, donc on est encore sur quelque chose qui est embryonnaire.
Oui.
On ne les trouve pas encore sur le sol français.
Celui-ci, non. On trouve des vins dans certains magasins, mais très sincèrement, pour le coup, oui, ce sont des vins de bas étage. Alors, qu'est-ce qu'aiment les Chinois, au final, puisqu'ils consomment leur propre vin ? Essentiellement, des vins rouges. Pourquoi ? Parce qu'il y a la symbolique. Le rouge, c'est la Chine. Le rouge, c'est la puissance. Alors que le blanc, c'est plutôt le deuil, la tristesse, etc. Donc, la symbolique est très forte. C'est aussi un objet social très important de prestige, d'où l'intérêt pour Bordeaux, bien évidemment. Et puis, Au-delà de ça, pour vous donner vraiment un exemple très concret, et je m'arrêterai là, il y a un film à grand succès qui a été tourné à Bordeaux, dans un château de Bordeaux supérieur. Savez-vous quel est le nom de ce château ? Château La France.
Ah oui, effectivement, ça, on comprend que l'approche des Chinois...
La séduction opère à plein.
D'accord, quand le vin chinois s'éveillera, bah visiblement ça ne va pas tarder. Alors juste Elvira, est-ce qu'on trouve ce genre de vin justement dans des restaurants? Comment fait-on pour détecter un bon restaurant chinois?
On trouve plutôt des vins pires que celui-ci dans beaucoup de restaurants chinois. Alors, en très peu de mots, parce qu'il faut qu'on passe à table, on doit éviter. Le truc à éviter, c'est les cartes à volonté. Enfin, on sera tous d'accord, qui sont faites par des gestionnaires qui veulent gagner de l'argent.
J'appelle les cartes
rapidement.
À volonté, c'est
buffet à volonté, ouais. C'est évident qu'il faut l'éviter. Les formules très peu coûteuses, formules à 10 euros, ça risque de pas être fameux. C'est-à-dire qu'à 10 euros, c'est peut-être possible en Chine, enfin l'équivalent de 10 euros. En France, ça signifie que la matière première sera pas bonne, que les produits sont mal sélectionnés. Les cartes numérotées à l'infini, on a tous vu ça, des cartes de 28 pages qui vont de
1 à 43, voilà. Etc. C'est vrai que quand il y a peu de monde dans un restaurant, c'est peut-être un peu suspect pour la fraîcheur.
Absolument. Autre mauvais signe, les restaurants mélangés, les sino-vietnamiens, les chinois-thaïlandais. Je vous vois acquiescer, je pense que c'est quand même pas fameux. Ce qu'il faut flairer pour savoir qu'on a affaire à une bonne table, c'est d'abord une cuisine chinoise distincte. Éventuellement une cuisine régionale. Quand on sait qu'on a affaire à un restaurant pékinois, cantonais, de Dongbei, du...
Qui se développe Hunan. De plus en plus, la cuisine régionale sur Paris, tout à fait.
Voilà, il y a vraiment une spécialisation
c'est bon signe.
De la
c'est le signe qu'il y a une légitimité et puis une vraie recherche. Une carte peu courante, avec des plats qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortent un peu du champignon noir, du poulet au champignon noir. Si vous voyez par exemple un jarret de porc à la mode du poète Dong Po, comme celui qui est servi au Bonheur du Palais à Bordeaux, on sait que c'est bon signe.
Bonheur du Palais à Bordeaux, d'ailleurs, c'est la bonne adresse à ne pas rater.
Excellentissime adresse.
Dong Po que j'avais cité tout à l'heure.
Oui, absolument.
Absolument. Un autre restaurant jute, vos restaurants préférés, William Tan Chuen.
Restaurant chinois, chez Wang, spontanément.
On y est allé ensemble. Hein. On a dégusté il y a quelques jours un canard laqué. Ken Home, une adresse.
J'adore le Noodle King. Oui, alors, c'est dans le... je crois que c'est dans le 9e.
Oui.
Oui, c'est un petit...
Le Noodle King.
Oui, oui. Petit Boui Boui.
À Paris.
Voilà.
Et c'est un petit restaurant.
Oui, c'est un restaurant. C'est des Chinois qui viennent à côté de Shanghai.
D'accord.
Mais ils sont une famille qui fait des plats qui est très bon.
Et une petite adresse, Elvira, peut-être. Vous avez autre chose?
Les délices du Shandong.
Eh oui, les délices de Shandong dans le 13e arrondissement.
Où on mange des fameux.
Eh ben moi, j'adore la salade de tripes au piment. On y mange également des langues de canard au sel. Allez, vous retrouvez de toute façon toutes les adresses sur le site internet de l'émission. Rapidement, Ken Home, cette belle cassolette de fèves qu'on a sous les yeux.
Ça, c'est très shanghainais.
Alors, c'est fèves avec jambon et ciboulette à la shanghainaise, c'est ça?
Voilà.
On joue des baguettes, tout le monde y va. Comment on fait?
Et ça, c'est des poulets.
Racontez-nous comment on fait ces fèves.
Ça, c'est des concombres. Séchuané.
Là, on est passé au poulet au concombre. Oui.
Mais Ken Home, racontez-nous, c'est délicieux ça. Il y a de l'huile de sésame, non?
Oui.
Alors racontez-nous, vous prenez des fèves.
Une note grillée.
Oui.
Vous prenez des.
Parce que ça le wok est très chaud. C'est ça qui donne le goût de.
Racontez-nous la recette, Ken Home.
Oui.
Parce qu'il nous reste très très peu de temps.
Ça, c'est très simple. Il y a des ciboules.
De la ciboule.
Oui. Vous faites sortir avec le. Un peu de jambon.
Du bacon ou du jambon.
Oui, oui. Et après, vous mettez les fèves fraîches.
Alors, des fèves, c'est des fèves fraîches. On peut éventuellement en trouver. Il y en a très bonnes chez Picard, des fèves surgelées.
Pourquoi pas.
Et vous les faites cuire et vous...
Et après...
Mais très peu de temps. Très rapidement.
2 minutes, c'est plat. Et après, je mets un petit filet de huile de sésame.
Et c'est tout, et ça donne excellente salade. Et puis on a également du tofu, car le tofu n'est pas que japonais, c'est d'ailleurs un aliment...
Le tofu, c'est une invention chinoise, hein, et c'est vraiment la viande, entre guillemets, de base chinoise. Et les Chinois ont l'habitude de le manger tout simplement. Vous achetez par exemple du fromage de soja soyeux, parce que vous avez deux textures, soit moelleux ou dur, hein, donc qu'importe. Pour 3 personnes, comptez 300-400 grammes. Vous coupez tout ça en petits cubes, vous arrosez généreusement de 2 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame et vous parsemez de coriandre.
Oh, magnifique. C'est fait. On va se régaler pour une recette au tofu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces recettes dans Le tofu, 10 façons de le préparer de William Shantan Chuen.
Aux
éditions de l'Épure. Absolument. Et puis je rappelle que vous avez aussi publié À la table du pavillon rouge aux éditions Jean-Paul Rocher. C'était en janvier dernier. Ken Home, merci beaucoup. Elvira est en train de se régaler.
Ah, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a mon poivre noir népalais dessus. Oui, je ne sais pas ce que c'est cette sauce. Hein. Mais c'est quoi cette sauce?
C'est une sauce avec des. Pâte de sésame.
Pâte de sésame. Oui.
Voilà.
C'est délicieux.
On va se régaler. Malheureusement, c'est la fin de cette émission, mais on va se déguster, on va se régaler avec tous les plats que nous a cuisiné Ken Home. Merci Ken Home. Cuisine chinoise, mes grands classiques, c'est Hachette Pratique. Et bientôt, à la rentrée, c'est important à préciser, vous allez éditer une somme de 300 recettes. Alors en anglais, c'est Complete Chinese Cookbook qui est sorti déjà en Angleterre. La traduction française est prévue pour septembre aux éditions de La Martinière. Toute la cuisine chinoise. Pour retrouver toutes les infos pratiques, les restaurants chinois d'Elvira Masson, les recettes de nos invités et beaucoup d'autres, franceinter.com, rubrique On va déguster. L'émission était réalisée aujourd'hui par Xavier Ollard, avec Jean-Noël Vélan et Guillaume Roux à la technique. Nadia Chougui et Lénora Krief nous ont aidés à la préparer. À la programmation musique. Excusez-moi. À la programmation musicale, Muriel Pérez, j'en suis vraiment désolé, c'est les fèves. La semaine prochaine, c'est Pierre Gagnère, le grand Pierre Gagnère, qui passe à table dans un instant 3D de Stéphane Paoli, en direct du Théâtre du Rond-Point. Bon week-end de la Pentecôte, bon appétit, à dimanche prochain.